parce qu'on va voir des bonnes choses ce matin. Vous ne voulez pas manquer. Parce que les choses qu'on va voir ce matin sont la base, le fondement vraiment de votre bonheur, de votre réussite, de votre joie, de même votre destinée éternelle. Vous savez que si vous ne saisissez pas le sujet de qu'est-ce qu'on va parler, vous ne pouvez même pas aller au ciel. Ça, c'est sérieux, n'est-ce pas? Et en réalité, je sais que combien de vous croyez que vous êtes en route pour le ciel? Donc, c'est pourquoi? Parce qu'on sait, selon la parole de Dieu, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et même la foi par laquelle nous sommes sauvés, ce n'est pas de nous, c'est un don de Dieu. Donc, ce matin, on va parler de la foi, comment avoir une foi inébranlable. Et je sais que si vous êtes aujourd'hui, ici présent, vous avez déjà donné votre vie au Seigneur Jésus, vous avez cru dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous avez déjà la foi et vous êtes sauvé et vous êtes en route pour le ciel. Amen. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est pas assez juste d'avoir la foi pour le salut, que la foi touche tous les aspects de notre vie. La foi va déterminer notre victoire et notre succès dans chaque domaine de notre vie. C'est vrai pour ce qui concerne votre destinée éternelle, vous pouvez pas aller au ciel sans avoir la foi. Mais c'est vrai aussi pour toutes les autres choses. Vous pouvez pas vraiment marcher dans la bénédiction de Dieu. Vous pouvez pas recevoir la guérison. Vous pouvez pas marcher dans la prospérité. Vous pouvez pas voir la main puissante de Dieu agir comme il veut que ça agisse dans votre vie sans avoir une foi qui est inébranlable. Amen. Donc, on va voir ces choses. Mais avant de faire cela, on va faire notre déclaration qu'on aime faire ici à la vie comblée. S'il y a des gens qui ont une Bible avec eux, je vous invite à prendre vos Bibles entre vos mains. Si vous n'avez pas amené une Bible, vous allez voir ici sur la feuille que vous avez reçue à la porte presque tous les versets qu'on va lire aujourd'hui. Donc, prenez cela. On va faire cette prière, déclaration. On va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Car Dieu ne ment pas. Et sa parole est vraie. Sa parole est pour toujours établie dans les cieux. Et aujourd'hui, sa parole sera établie dans mon cœur. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu et je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai pour toujours et à jamais transformé au nom de Jésus. Amen. Une foi inébranlable. Combien le sujet de la foi est important. J'ai vraiment prié depuis un couple de semaines. Je cherchais la face du Seigneur. Vous savez qu'on a terminé une série il n'y a pas longtemps, il y a juste 2 semaines. Et je cherchais la face du Seigneur pour la direction pour l'Église, pour les prochaines quelques semaines. Et c'est venu fort dans mon cœur qu'on avait besoin d'étudier le sujet de la foi. Et même dans un sens, pour quelques-uns de revenir à la base, pour quelques autres, ça va être des nouvelles choses que vous n'avez peut-être jamais entendues. Mais peu importe là où vous êtes dans votre cheminement avec le Seigneur, si vous êtes vraiment une personne qui est déjà enracinée dans la foi, les choses qu'on va voir vont vous aider à aller à un autre niveau. Si vous êtes un débutant dans les choses de la foi, ça va vous aider à partir bien comme il faut. Amen. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Donc, on va aller en Hébreux, chapitre 11, verset 6. Parce que combien de fois des personnes, ils comprennent pas le sujet de la foi. Ils comprennent pas c'est quoi la foi. Ils comprennent pas l'importance de la foi. Ils comprennent pas comment la foi fonctionne dans nos vies. Et on va aller en Hébreux, chapitre 11, et on va lire un texte clé aujourd'hui qui va nous parler. Hébreux 11, 6 dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que le sujet de la foi, c'est important, selon ce verset? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Vous pouvez faire toutes les choses que vous voulez pour gagner la faveur de Dieu. Vous pouvez aller à l'église 7 jours par semaine. Tu peux prier à tous les jours. Tu peux lire une Bible à tous les jours. Tu peux faire des gestes d'amour et des bonnes œuvres de charité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour faire plaisir à Dieu. Et vous savez qu'il y a beaucoup de religieux qui font cela, n'est-ce pas? Des personnes religieuses qui veulent gagner le ciel, qui veulent prouver qu'ils sont dignes de Dieu, etc. Mais vous savez bien que ça marche pas. Ça vaut un gros zéro. Vous pouvez passer toute votre vie en faisant ces bonnes œuvres et ça vaut rien. La seule chose qui peut vous rendre agréable à Dieu, c'est la foi. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est que la foi, c'est pas une chose qui vient de nous. La foi, c'est un don de Dieu. Donc, c'est bon. La seule façon d'être agréable à Dieu, c'est d'avoir la foi. Et on ne peut pas avoir la foi à moins que Dieu nous donne la foi. Est-ce que vous voyez la bonté de Dieu? Hein? Il dit, tiens, je vous donne un cadeau. Et dès que vous recevez ce cadeau, qu'est-ce que je vous donne? Tu vas être agréable à moi. Donc, ce n'est pas une question de travailler, d'œuvrer ou de mériter la faveur de Dieu. C'est impossible de mériter sa faveur. Il faut recevoir sa grâce. Et on reçoit sa grâce comment? Par le moyen de la foi. La foi, c'est l'ingrédient qui vous rend capable de recevoir toutes les choses qui viennent de la main de Dieu. Sans la foi, vous êtes dans l'impossibilité de recevoir ce que Dieu veut vous donner. Amen? C'est vraiment si simple, mais si profond. Si simple, mais si profond. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, regardez-moi bien, parce que si on ne fait pas attention, on va lire ces versets et on va dire, bon, je comprends, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut vous donner une révélation aujourd'hui de la foi. Et le verset continue, il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient que Dieu existe? Est-ce que vous êtes convaincus? Aucune doute que Dieu existe. Moi, je dirais que la plupart des personnes savent que Dieu existe. Même les athées savent que Dieu existe. C'est vrai, hein? C'est l'insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Les athées savent que Dieu existe dans leur cœur. Dans leur tête, ils sont tellement mêlés, ils ont fait des efforts pour, on pourrait dire, ôter la connaissance de Dieu de leur intelligence, mais dans leur cœur, même un athée sait que Dieu existe. Je m'en souviens d'une fois, on était en Belgique, Tania et moi, en train de prêcher dans différentes places, et on était dans un train, et il y avait un jeune homme dans le train avec nous, et il commençait à jaser avec nous, et je pense qu'il était parfaitement bilingue. En fait, il venait des États-Unis. Sa mère était américaine, son père était belge, et il commençait à parler avec nous, et il a su que j'étais un pasteur. Et puis, il a dit, mais tu sais, moi, je suis un athée dévoué. Je me suis demandé, comment est-ce qu'une personne peut être dévouée à rien? Je ne sais pas, hein? Mais lui, il était un athée dévoué. Et ce monsieur, ce jeune homme, il a dit, oui, je vais à l'université actuellement, et j'ai même des professeurs qui ont écrit des livres, qui ont prouvé que Dieu n'existe pas. Donc, j'ai plusieurs mentors à l'université, des athées qui ont, on pourrait dire, les autres athées dévoués. Donc, on parlait pendant une vingtaine de minutes et il donnait tous ses raisonnements, pourquoi il savait que Dieu n'existait pas, etc., etc. Et puis, finalement, j'ai écouté tout cela et à la suite, j'ai regardé le jeune homme droit dans les yeux et j'ai dit, oui, tu viens de me dire que tu es convaincu que Dieu n'existe pas. Mais si tu es honnête avec toi-même, et si tu es honnête avec Dieu, il y a quelque chose ici dans ton cœur qui te dit que Dieu existe, qu'il est vrai. Et moi, je suis là pour te dire qu'il n'existe pas seulement, mais il est bon, il t'aime. Et tu sais quoi? Tout son comportement a changé. Il a dit, mais tu sais, des fois, je me pose la question, et si j'ai tort? Et j'ai même une fois demandé à mon professeur, mais qu'est-ce qui va arriver si nous avons tort? Et le professeur, c'est comme, ah, oh, ben, mais on pense pas à ça, hein? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'homme. On a juste à voir la création et on sait que le monde n'existe pas par hasard. On voit un bébé qui va naître et on peut pas dire que c'était juste. Mais il y a des personnes qui croient aux théories du Big Bang, hein, n'est-ce pas? Hein, vous savez c'est quoi la théorie du Big Bang? Hein, qu'il y avait juste une explosion dans l'univers et que tous ces petits morceaux de matériel sont devenus des planètes, un système solaire et que de rien, les choses ont commencé à croître et pousser. Et, c'est vraiment toute une histoire. Mais c'est moi, je crois aux théories de Big Bang aussi. Je crois que Dieu a dit que la lumière soit et bang! La lumière fut. C'est comme ça que ça a marché. Amen. Okay. Mais vois-tu, les gens de ce monde, ils sont dans la confusion. Mais la plupart des gens croient que Dieu existe. Même s'ils ne veulent pas l'admettre ou l'avouer, ils savent que Dieu existe. Mais ça, c'est juste la moitié de la recette pour avoir la foi. Car celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si vous croyez que Dieu existe, mais dans votre tête, dans votre pensée, Dieu est méchant. Dieu est un méchant avec un bâton, un verge qui est prêt à te punir, te frapper à chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas correct. Laisse-moi vous dire, vous n'allez pas avoir la foi. Amen. Pour recevoir les choses de Dieu. Il faut croire que Dieu existe et il faut croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que si je cherche Dieu, je crois qu'il est bon, il m'aime et il va me donner des bonnes choses. Alléluia! Donc il y a beaucoup de vous n'êtes pas encore convaincus. Vous êtes convaincus que Dieu existe, mais vous n'êtes pas convaincus que vous êtes agréable à Dieu. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas convaincus que vous êtes agréable à Dieu? C'est parce que vous n'avez pas compris la bonté de Dieu. Vous n'avez pas compris l'amour de Dieu. Vous n'avez pas compris que Dieu vous aime sans condition et que peu importe qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, qu'est-ce que vous avez fait dans le futur, que si vous vous approchez de lui, au nom de Jésus, il ne va jamais vous rejeter. N'est-ce pas une bonne nouvelle? La foi est importante parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. La foi est importante aussi. Regardons bien Matthieu 17, 20 qui dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. » Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu un grain de sénévé? C'est minuscule, minuscule, minuscule. « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Je vous invite ce matin à réfléchir et penser, méditer le sujet de la foi. De voir que si vous êtes capable de saisir une véritable foi en Dieu, et de développer une foi inébranlable que rien vous serait impossible ici sur la terre. Rien. Ce n'est pas moi qui l'a dit. On ne serait plus limité par les circonstances ou par les lois naturelles qui sont en train d'agir sur la terre. On va coopérer avec les lois naturelles, mais on ne serait plus limité par les lois naturelles. Amen. C'est-à-dire que si la pluie descend, on peut prendre un parapluie. Sauf que si, à un moment donné, la pluie descend et ça peut être un problème ou ça peut mettre votre vie en péril, comme c'était le cas avec les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus, il y avait une tempête, ils avaient peur. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parlé à la tempête et la tempête s'est calmée. Vous dites, oh oui, mais ça c'est Jésus. Oui, ça c'est Jésus. Le même Jésus qui a parlé au figuier et il a dit que personne ne mange de ton fruit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier était desséché dès les racines. Et les disciples l'ont vu le lendemain. On dit, wow, regarde ça, Seigneur, l'arbre que tu as maudit est mort. Et qu'est-ce que Jésus a dit? En vérité, en vérité. Il a dit, en fait, aie la foi de Dieu. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, Jésus, il n'a pas dit, ah oui, c'est vrai, regarde, j'ai maudit un arbre, c'est mort, ça c'est parce que je suis le Fils de Dieu. Il a dit, oui, j'ai fait ça, mais regarde, en vérité, je vous dis la vérité, n'importe qui croit en moi peut faire la même chose. Et là, je viens de dire ça et je viens de perdre 25% de vous. Vous dites, ça ne marche pas dans ma tête religieuse. Jésus fait les choses de même. Nous ne faisons pas les choses comme ça. Mais Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il fera aussi, et même les plus grandes œuvres, parce que je m'en vais au Père, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui invente ces choses. Je vous déclare ce que la Bible nous enseigne. Donc, quittez pas la salle en disant, mon pasteur a prêché des choses bizarres aujourd'hui. Je vous parle de la Bible. Je vous parle de la foi. Je vous parle d'un Dieu qui est puissant, qui est bon et pour qui rien n'est impossible et rien n'est trop difficile. Et si pour Dieu, est-ce que vous êtes d'accord que rien n'est trop difficile pour Dieu? Il faut croire en même temps que rien n'est trop difficile pour nous parce que nous sommes en lui une seule plante avec lui. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Amen. Alléluia. Alors, si la foi est si importante, je pense que ça vaut la peine de savoir c'est quoi la foi, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 11, verset 1 nous donne la meilleure définition de la foi qu'on peut avoir. Chapitre 11, verset 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est une ferme assurance. Il y a une autre version dans la parole vivante qui dit que qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance, assurance et confiance. Si on a la foi, on est confiant. On a de l'assurance. Vous savez, on peut avoir la foi dans le domaine naturel. Chacun de vous, vous avez agi par la foi tantôt. Au moins trois fois, j'ai vu que vous avez utilisé la foi naturelle aujourd'hui, depuis 10 heures ce matin. Hein? Vous êtes venu et j'ai dit que trouvez votre place. Et à un moment donné, après les chants, on a dit, vous pouvez vous asseoir. Tout le monde s'est assis. N'est-ce pas? On s'est levé debout encore. J'ai dit après, vous pouvez vous asseoir. Et qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des personnes qui ont dit, ah, mais attends une minute, je vais juste vérifier. Est-ce que c'est assez solide? Je sais pas. Est-ce que ça va tenir? Là, OK, c'est correct. Je vais m'asseoir. Vous n'avez même pas pris le temps de regarder. On a dit, vous pouvez vous asseoir, et tout le monde s'est assis. Ça, c'est la foi naturelle. C'est une ferme assurance. Vous aviez la confiance que la chaise était capable de vous tenir. Mais il y a quelques-uns de vous, vous avez plus confiance dans une chaise qu'en Dieu. C'est vrai, hein? Le pasteur dit, asseyez-vous. Aucun problème, je m'assois. Mais Dieu dit telle ou telle chose, il vous demande à faire quelque chose, et c'est comme, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher ou non? Vous n'avez pas une ferme assurance, vous n'avez pas une confiance. Et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Regardons, dans vos notes, j'ai mis la définition de la foi selon la parole vivante. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des espérances? Il y a des choses que Dieu vous a montrées dans la parole de Dieu. Vous espérez voir ces choses se réaliser. Mais ici, on sait que la foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. Quand on a la foi, on sait qu'on sait qu'on sait qu'on sait que ce qu'on espérait va se réaliser. On est aussi certain, plus certain que la chaise va nous tenir. Je suis plus certain que qu'est-ce que Dieu m'a promis va s'accomplir. c'est, si on continue, c'est vraiment bon, c'est une manière de le posséder déjà par avance. On peut posséder les choses que nous espérons avant de les voir manifester, avant de les voir réaliser, on peut les posséder déjà en avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Combien de vous avez un foi dans votre corps physique? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un foi? Levez la main si vous avez un foi. Voici une bonne question. Combien de vous, vous avez un cerveau? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont un cerveau? Levez la main. Il y a quelques-uns qui n'ont pas levé la main. Ça, c'est sérieux. Si vous avez un cerveau, mais prochaine question. Combien de vous, vous avez vu avec vos yeux votre foi? Peut-être il y a quelques-uns qui ont eu des chirurgies, je ne sais pas. Et vous avez vu, bien, d'habitude, quand on se fait opérer de même, on n'est pas conscient. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont vu leur cerveau avec des yeux physiques? Peut-être qu'il y a quelques-uns qui ont vu, qui ont eu des scanners ou les examens médicaux. Vous avez vu des photos de votre cerveau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu les photos de leur cerveau? Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu mon cerveau sur une photo une fois. Mais vous savez quoi? J'ai jamais vu mon foie, mais je suis sûr et certain. Je suis absolument certain que j'en ai un. Et vous? Hein? Vous n'avez peut-être pas vu votre cerveau, mais je suis certain que vous en avez un. Peut-être votre voisin est moins convaincu, mais... Non. Je sais que vous avez un cerveau, mais vous ne l'avez jamais vu. Donc, vous savez, ça, c'est la foi. Je crois. Il y a une évidence. C'est pas une foi qui est aveugle. J'ai une raison pour ma croyance. Et moi, je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe et je crois aussi que Dieu est un rémunérateur. Et ça, c'est les deux choses nécessaires pour avoir la foi et être agréable à Dieu. Parce que si je ne crois pas qu'il existe, si je ne suis pas convaincu qu'il est un rémunérateur, je ne suis pas en mesure de recevoir quoi que ce soit de lui. Je ne peux pas recevoir le salut de mon âme, si je ne suis pas convaincu qu'il veut me donner le salut. Je vais espérer. Oh, j'espère que je suis sauvé. J'espère que je vais aller au ciel. J'espère. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont prié une prière, mais ils n'ont pas eu la foi et ils ne sont pas convaincus qu'ils vont aller au ciel. Ils n'ont pas eu la foi, la ferme confiance que Dieu existe et qu'il est bon. Donc, comment avoir confiance en Dieu? Aujourd'hui, on va juste regarder ça pendant quelques minutes. Vous savez, la confiance égale la foi et la foi égale la confiance. Quand on parle de la confiance, moi, j'ai une entière confiance dans mon épouse. Je sais que si mon épouse me dit quelque chose, c'est vrai. Elle ne va pas me mentir. Ce matin, j'ai agi par la foi. Il y avait, comme je l'ai dit, j'ai amené mon fils à Montréal. Il avait besoin de rencontrer le groupe de jeunes à 7h15 à Montréal. Et Jean-Charles, le leader de jeunesse, a dit, « Bon, je vais rester dehors, je vais vous attendre entre 7h15 et 7h15. » On était 60 secondes en retard. J'aime pas ça. Mais je suis arrivé à 7h16 parce que je me suis trompé de chemin une fois. Je n'ai pas pris le chemin que je voulais. Mais à 7h16, j'arrive et je vois Jean-Charles qui est là. Mais là, vous savez, Jean-Charles a agi par la foi, parce qu'il savait que quand le pasteur a dit, je vais être là avec mon fils à 7h, entre 7h et 7h15, il a pris la peine d'aller se tenir même dans la pluie. Hein? Il y avait un peu de pluie. Il était là, il a agi. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance dans la parole. Moi, j'avais confiance. Quand il m'a dit que je serais là à telle place, telle heure, j'avais confiance, je suis parti. Tu sais, à chaque fois qu'on va aller chercher quelqu'un à l'aéroport, une personne m'appelle en disant, « Bon, je vais arriver à l'aéroport à telle heure, tel vol, j'y vais. » Je n'ai pas besoin de voir l'avion, je n'ai pas besoin de voir la personne avec mes yeux, mais sur sa parole, si la personne est digne de confiance, si je suis capable de mettre ma confiance dans la personne, je vais agir. Mais laisse-moi vous dire que si je reçois ce soir un appel de quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais parlé avec, je ne sais pas qui c'est, et la personne me dit, bon, mais rencontre-moi au coin de Marchand et Boulevard Lumière ce soir et je vais vous donner un chèque pour 10 000 $. Moi, je vais pas me déplacer pour cette personne parce que je ne connais pas la personne. Peut-être vous direz, hey, mais il faut aller vérifier, être sûr que ce n'est pas vrai. Hein? Même si c'est vrai, le chèque n'est probablement pas bon. Hein? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que quand on a confiance, on agit par la foi. Mais la confiance, et c'est ça que j'ai écrit dans vos notes ici, la confiance est le fruit de la connaissance. Plus je connais une personne, plus j'ai confiance dans la personne, si la personne est digne de confiance. Donc, vois-tu, plus je passe du temps avec une personne, ma foi dans la personne, ma confiance dans la personne va être soit augmentée ou diminuée. Vous êtes d'accord? Vous allez passer du temps avec quelques personnes et vous allez dire après que, oh, là, je pensais que la personne était digne de confiance, mais je viens de voir que la personne mentit, la personne ne garde pas sa parole. Donc, prochaine fois qu'il me dit quelque chose, je vais prendre ça avec une graine de sel, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres personnes qui, avec le temps, vous voyez qu'à chaque fois qu'ils disent une chose, ils le font, ils le font, ils le font, et ça va déterminer votre niveau de confiance dans la personne. Donc, la connaissance est une clé pour avoir confiance, et la confiance égale la foi. Donc, si vous voulez être agréable à Dieu, c'est quoi la clé? C'est simple, il faut connaître Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez avoir confiance en Dieu. En fait, Osée 4, 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, Dieu a dit. » C'est pourquoi l'apôtre Paul a prié en Éphésiens 1, 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, et de révélation dans quoi? Dans sa connaissance. Une des choses les plus importantes pour nous en tant que chrétiens, c'est d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Il faut qu'on connaisse Dieu pour vrai. Et comme j'ai dit dans vos notes ici, une personne qui connaît Dieu d'une façon intime n'aura jamais de la difficulté à lui faire confiance. Amen? Si vous connaissez Dieu, si vous connaissez Dieu, et je veux dire vraiment, vous connaissez Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ici le premier ministre du Canada? Mais pas d'une façon intime. Hein? Moi, c'est une chose de savoir qu'une personne existe. C'est une autre chose de savoir qui est la personne parce que vous êtes en relation avec la personne. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que la foi, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une formule que vous pouvez manipuler. La foi, ce n'est pas une chose que vous pouvez juste peser sur les bons boutons, dire juste les bonnes choses au bon moment et avoir les résultats que vous désirez. La foi, en réalité, c'est une relation avec Dieu. Comment on dit, la foi est une relation avec Dieu. Il faut qu'on soit rendu à une place dans notre vie chrétienne, et surtout aujourd'hui, parce que Jésus revient bientôt. Et Jésus veut qu'on fasse des exploits ici sur la terre avant qu'il vienne. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que quand le Seigneur vous demande d'imposer les mains sur les malades, il ne faut pas que vous fassiez, comme je dis tantôt, avec la chaise. Bon, je ne sais pas, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que je peux vraiment imposer les mains sur les malades et les malades vont être guéris? Je ne suis pas sûr. Il faut connaître Dieu d'une façon si intime que quand Dieu vous demande de faire quoi que ce soit, vous agissez. OK, bon, je le fais. Je te connais, Seigneur, et si c'est toi qui me parles, je sais que ta parole est digne de confiance, j'agis. Amen? Je fais ce que tu m'as demandé de faire. Hein? Et des fois, le Seigneur nous a déjà demandé de faire des choses dans sa parole. Marie, aimez vos épouses. Hein? Pardonnez-vous réciproquement, comme Christ vous a pardonné. honorer le Seigneur avec les prémices de vos revenus. Toutes ces choses, des commandements que Dieu donne. Des fois, on ne sait pas, est-ce que je devrais vraiment pardonner? Parce que si je pardonne la personne va me faire mal encore. Est-ce que je dois vraiment donner? Est-ce qu'il serait vraiment donné en retour? Est-ce que je vais vraiment capable de faire? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à Dieu? Si vous ne connaissez pas Dieu, vous n'allez pas lui faire confiance. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître de Dieu? Trois choses que je veux souligner. Premièrement, il faut connaître la nature de Dieu. Combien de vous, vous savez que Dieu est bon? Quand Jésus a donné la parabole des serviteurs, des justes et des injustes serviteurs, etc., vous savez qu'est-ce qu'il a dit à celui qui a fait la volonté de Dieu? Il a dit, « Bien fait, bon et fidèle serviteur. » Tout le monde dit « bon et fidèle. » Nous sommes créés à l'image de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a souligné? Quelle nature est-ce que Dieu a souligné chez ces personnes-là qui ont fait la volonté de Dieu? Il a souligné la bonté et la fidélité. Pourquoi? Parce que ça reflète son cœur. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Tout le monde dit «
Dieu est bon »
et « Dieu est fidèle ». Et vous avez besoin de connaître, d'être convaincu que Dieu existe, mais c'est pas juste que Dieu existe, mais Dieu est bon et Dieu est fidèle. Sans aucune doute, sans exception, à 100%, Dieu est toujours bon et Dieu est toujours fidèle. Dieu est bon en tout temps. On l'a chanté tantôt, n'est-ce pas? Est-ce que vous le croyez? Donc, si vous êtes convaincu que Dieu est bon en tout temps, vous allez arrêter de vous poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé telle chose qui était difficile ou ta-da-da? Vous allez voir que tout bon, tout don excellent, toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières. Et si c'est pas bon, si c'est pas parfait, si c'est pas excellent, ça vient pas de lui. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et c'est la connaissance de sa bonté et la connaissance de sa fidélité qui va vous rendre capable de lui faire confiance, qui égale la foi, qui fait en sorte que vous êtes agréable et que vous êtes capable de recevoir de lui. Plus votre foi est grande, plus vous pouvez recevoir de grandes choses. Plus votre foi est grande, plus vous pouvez faire de grandes choses. C'est-à-dire, plus vous avez confiance en Dieu, plus vous connaissez la bonté et la fidélité de Dieu, plus les miracles de Dieu vont se manifester dans votre vie. Plus les bénédictions de Dieu seront ajoutées à votre vie. Ce n'est pas une grande chose. Vous devez savoir, ça, c'est rien. Guérir une malade, c'est rien pour Dieu. Pourvoir aux besoins des personnes qui sont dans la difficulté, c'est rien pour Dieu. Je lui fais confiance à 100%. Hébreux chapitre 11, on a un bon exemple de cela. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Tout le monde dit rendue capable. Laissez-moi vous dire que la foi vous rend capable de faire les choses qui sont impossibles. Est-ce que vous écoutez? La foi vous rend capable de faire les choses que vous êtes dans l'impossibilité de faire dans le naturel. Sarah, naturellement, n'était pas capable de concevoir un enfant. Elle a dépassé l'âge de concevoir les enfants. Elle n'avait plus des œufs dans son système pour recevoir la semence et pour tomber enceinte. Ça ne marchait plus son affaire. N'est-ce pas? Toutes les choses naturelles disaient, c'est fini, c'est terminé. Le temps d'avoir des enfants est dépassé il y a déjà longtemps, mais par la foi, elle fut rendue capable de faire ce qu'elle n'était pas capable de faire dans la naturelle. Et Dieu va vous demander de faire des choses dans ces derniers jours qui sont impossibles. Et il va falloir que vous ayez la foi pour être rendu capable de faire ces choses. Donc, qu'est-ce qu'on va voir cette semaine et la semaine prochaine, c'est que vous avez quand même une responsabilité même pour faire grandir votre foi. Dieu vous a déjà donné une mesure de la foi, mais c'est à vous maintenant de nourrir votre foi, de développer votre foi, de faire grandir votre foi. Parce que ça se peut que vous avez peu de foi, et Jésus veut que vous ayez une grande foi. Amen? Donc, On va continuer. Il faut connaître la nature, ou on peut dire la fidélité de Dieu, parce que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. En fait, dans la version anglaise de ce verset, c'est marqué que Sarah a jugé que Dieu était fidèle. Donc, la foi, dans un sens, c'est de juger Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Juger Dieu, pas dans le sens de condamner Dieu, parce que personne ne peut toucher à lui, il est parfait. Mais on examine Dieu, on voit qui il est, quelle est sa nature, et on juge, on fait un jugement, on passe un jugement que, waouh, il est bon, il est merveilleux, et il est fidèle. Amen? On juge les autres, n'est-ce pas, comme ça? On juge, est-ce que la personne est digne de confiance? Est-ce que sa parole est bonne? Si sa parole n'est pas bonne, on n'agit pas. Si la parole de la personne est bonne, on agit avec confiance. Et la même chose, il faut que vous soyez capable de juger que Dieu est fidèle, il garde toujours ses promesses, il est à 100% bon et 100% fidèle. Qu'est-ce qu'il a promis? Il va le faire. Sans exception. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus de cela? Peut-être que vous êtes convaincus dans votre tête, mais qu'est-ce qui compte, c'est d'être convaincu dans votre cœur. Il faut connaître la bonté et la fidélité de Dieu, la nature de Dieu. Deuxième chose qu'il faut connaître, il faut connaître la puissance de Dieu. Il ne faut pas juste savoir que Dieu est bon et il est fidèle, mais il faut savoir que Dieu est puissant et qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. En fait, Hébreux 11, 17 à 19 dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, il faut juger que Dieu est fidèle, et il faut aussi faire le jugement que Dieu est puissant. Malheureusement, j'ai vu trop de chrétiens que dans leur tête, dans leur pensée, ils ont un diable qui est gros de même, et un Dieu qui est petit de même. Ils parlent toujours, « Oh, le diable a fait telle chose », ou « Oh, c'est difficile ». Ils parlent de leurs problèmes, ou ils parlent de leur adversaire, comme si l'adversaire et les problèmes sont si grands. Hein? Laisse-moi vous dire, Dieu est grand. Parce que dans cet univers, qui est en train de grandir à chaque instant, à la vitesse de la lumière, car Dieu est lumière, vous savez, on voit les étoiles et ça a l'air proche. Ça prendrait à la vitesse de la lumière des années et des années, des milliers d'années juste pour se rendre. Quelque chose, n'est-ce pas? Et dans cet univers si énorme et si immense, on a notre galaxie, n'est-ce pas? Et notre galaxie, comparée à l'univers entier, est vraiment petite, mais notre galaxie est énorme comparée à nous, n'est-ce pas? Donc, on a l'univers énorme, on a dans notre univers une galaxie. Et dans cette galaxie qui est quand même énorme, on a une petite planète qui s'appelle la planète Terre. Et Dieu a fait tout cela avec sa parole. Il a parlé. Et bang! Le Big Bang. Et ici, sur la planète Terre, si on pourrait regarder, on voit qu'il y a un continent tout petit qui s'appelle l'Amérique du Nord. Et là, si on peut continuer, on verrait sur le continent de l'Amérique du Nord un pays qui s'appelle le Canada. Et ici, à l'est de ce pays, on voit une petite province, une belle province, mais c'est la province du Québec. Et là, si on regarde un peu plus, on voit que dans la province du Québec, il y a le centre du Québec, et ensuite, on voit la ville de Drummondville, qui est bien, bien située stratégiquement, là, dans le cœur du Québec, une belle place. Mais si on regarde comme il faut, on voit que là, Drummondville,
il y a une maison. Et dans cette maison, il y a une petite pièce, une chambre à coucher. Il y a un monsieur dans la chambre. Et là, on voit le petit monsieur, lui, il a un gros problème! La facture d'Hydro-Québec est arrivée, il n'a pas assez de sous pour le payer. Hein? C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que les gros problèmes n'existent pas pour Dieu. Dieu n'a jamais, jamais, une seule fois été surpris. Est-ce que je peux vous répéter cela? Dieu n'a jamais été surpris. Jamais. Il n'a jamais, on n'a jamais eu une crise au ciel. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Nos enfants, ils manquent d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il y a quelqu'un qui a attrapé une grippe. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, tu sais, on fait une conférence tout de suite avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et il commence à se gratter la tête et arracher les cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire? Jamais. En fait, avant qu'il a dit bang, la lumière fut, avant le Big Bang, Dieu avait déjà un plan. L'agneau immolé avant la fondation du monde. Il a déjà donné son fils, même avant qu'il a créé la première âme, le premier homme, n'est-ce pas? Donc, il faut connaître la puissance de Dieu. Il faut penser que Dieu est puissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Tout est possible à celui qui croit. Tu t'en souviens, l'homme est venu vers Jésus en disant, « Oh, Seigneur, si tu peux, fais quelque chose, mon fils. » Jésus a dit, « Si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas assez la puissance de Dieu. Connaître la puissance de Dieu dans notre tête, ça ne marche pas. Il faut connaître la puissance d'amour dans le cœur. Comme Paul a dit, et de le connaître dans la puissance de sa résurrection. Il faut connaître la nature de Dieu. Il faut connaître la puissance de Dieu. Mais savez-vous quoi? Ce n'est pas assez pour avoir la foi. Moi, je peux savoir que Dieu est tout puissant et que Dieu peut faire tout. Mais comme le lépreux qui est venu à Jésus, il a dit à Jésus, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Le lépreux savait que Dieu pouvait. Il savait que Jésus avait le pouvoir, mais il ne savait pas à 100% si Jésus avait le vouloir. Il y a des millionnaires, sûrement à Drummondville, vous êtes d'accord? Qui ont le pouvoir de vous bénir ce matin avec des biens naturels. On peut peut-être faire un sondage et vous pourrez nommer des personnes que vous connaissez à Drummondville qui ont le pouvoir de faire un chèque pour acheter le restant des chaises pour l'église ou pour vous bénir ou pour payer une nouvelle auto pour vous. Peut-être vous connaissez, peut-être pas personnellement, mais par nom, la personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît une personne qui a le pouvoir de faire un chèque de 1 000 $ sans que ça soit aucun problème? Juste lever la main. Mais est-ce que vous avez confiance que cette semaine, vous allez trouver un chèque de 1 000 $ dans votre boîte à lettres? Combien de vous avez confiance que vous allez trouver 1 000 $ dans votre portefeuille cette semaine? Oh, ben gloire à Dieu, merci. Tant mieux. Mais qu'est-ce que je suis en train d'illustrer, c'est que vous pouvez connaître une personne dans le sens qu'il a le pouvoir. Mais vous ne pouvez pas avoir une confiance que vous allez recevoir quelque chose de lui, à moins de savoir qu'il veut vous donner quelque chose. Le pouvoir et le vouloir ensemble, une connaissance du pouvoir et une connaissance du vouloir ensemble vont créer la confiance qu'on appelle la foi. Si je connais la nature de Dieu, il est bon, il est fidèle. Il peut faire toutes choses, il n'y a rien d'impossible. Là, la prochaine chose qu'il faut que je connaisse, c'est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa puissance? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut tout faire. Sauf qu'il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mentir. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas se renier lui-même. Encore, c'est lié avec sa fidélité et sa bonté. Dieu ne peut pas mentir. Il est digne de confiance. Donc, si je connais
sa nature. Il est bon et fidèle. Et je connais son pouvoir. Tout est possible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est étonnant pour lui. Mais là, je connais aussi sa volonté. Que Dieu peut et il veut. Là, j'ai confiance. Si cette personne que vous connaissez, qui a la capacité de vous donner 1 000 $, dit, je veux vous donner 1 000 $. Là, vous pouvez avoir la foi. Regarde bien. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, verset 9 dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance. Voici notre mot-clé, n'est-ce pas? Parce que connaissance donne naissance. Connaissance, n'est-ce pas? Intéressant. La connaissance donne naissance à la confiance. Rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Souligne le mot agréable. Sans la quoi, il est impossible de lui être agréable? Sans la, Hébreux 11:6, ça dit quoi? Il y a juste une personne qui a écouté. Est-ce qu'il faut que je recommence le message? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ici, on voit que si on est rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, on va être capable de marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. On peut dire en autre mot que plus nous sommes remplis de la connaissance de sa volonté, plus je sais ce que Dieu veut, plus je connais son cœur, plus je connais sa volonté, plus je serai rempli de foi et plus je vais marcher d'une manière digne de lui et agréable à lui. OK? Donc, on peut prier. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. On a besoin de croître, comment? Par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. La connaissance donne naissance à la confiance qui est égale à la foi. Plus je connais Dieu, plus je connais sa nature, il est bon et fidèle. Plus je connais son pouvoir, rien n'est impossible à lui. Plus je connais sa volonté, qu'est-ce qu'il veut faire? Voici, Dieu peut tout faire. Est-ce que vous êtes d'accord que si Dieu voulait, il pouvait aujourd'hui changer mes vêtements devant vos yeux. Il pourrait faire pousser des arbres, il pourrait faire des choses surnaturellement, des miracles. Jésus a changé l'eau en vin, n'est-ce pas? C'est un miracle, vous êtes d'accord? On voit dans l'Ancien Testament que le soleil s'est arrêté pendant une heure de temps et les scientifiques ont découvert aujourd'hui que hey, c'est vrai, ça a confirmé encore la Bible. Il y a toutes sortes de choses que Dieu peut faire. Mais pour moi d'avoir confiance, il faut que je sache que Dieu veut le faire. Comment est-ce que je peux connaître sa volonté? Hein? Pour connaître sa volonté, il faut que je connaisse sa parole, n'est-ce pas? Je peux observer les actions d'une personne, je peux écouter les paroles d'une personne, je peux regarder qu'est-ce qu'il a fait pour des autres personnes et ça peut me montrer qu'est-ce qu'il veut. Il y a des choses que Dieu a dit dans sa parole. Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Une chose que je sais, Dieu veut que je sois joyeux. C'est sa volonté. Et c'est lui qui travaille à moi, qui me donne le vouloir et le pouvoir de faire sa volonté. Donc, si je veux être joyeux, je peux être joyeux. Peu importe. Hein? Dieu veut que vous soyez, en fait, 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On sait que être prospère à tous égards, avoir une âme qui prospère et être en bonne santé, c'est la volonté de Dieu pour ma vie, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on voit concernant la volonté de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé, n'est-ce pas? Donc, si je regarde la parole vivante qui est Jésus en action dans les évangiles et je vois comment Jésus a réagi avec les personnes qu'il a rencontrées, je peux connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas?
Parce que Dieu ne fait exception de personne. Qu'est-ce que Dieu a dit, les promesses qu'il a faites, ça révèle sa volonté. Donc, juste pour terminer, on va terminer là, trois choses sur l'autre côté des bonnes notes que je veux vous donner, juste pour terminer cette introduction sur le sujet de la foi aujourd'hui. Trois étapes pour mieux le connaître. On sait que la foi égale la confiance. C'est la connaissance qui donne naissance à la confiance. Plus on connaît la nature de Dieu, qu'il est bon et fidèle, plus on connaît la puissance de Dieu et la volonté de Dieu, plus on va lui faire confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire, donc, pour mieux le connaître? Premièrement, prenez le temps de le connaître dans la prière. Vous savez, si je veux connaître une personne, il faut que je passe du temps avec la personne. Et j'ai besoin de passer du temps dans la prière avec Dieu. Et si je prie avec mon intelligence, et même la parole de Dieu dit en Jude 20, que si je prie dans l'esprit, je prie en autre langue, je vais bâtir et édifier ma très sainte foi. Ma foi va être augmentée et grandir si je prie dans l'esprit, parce que je suis en communion avec Dieu. La prière va augmenter ma connaissance de Dieu, et plus ma connaissance est grande, plus ma foi va être grande. Amen. Numéro 2, prenez le temps de le connaître dans sa parole. Voulez-vous savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Ici, on voit sa volonté. Toutes les choses qui sont écrites là-dedans, les promesses qui sont adressées aux chrétiens, nous appartiennent aujourd'hui. Je sais c'est quoi. Je peux voir la nature de Dieu, le pouvoir de Dieu. Je peux voir la volonté de Dieu dans ce livre. C'est pourquoi la Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus vous lisez, plus vous méditez la parole de Dieu, plus la foi et la confiance, parce que la connaissance de Dieu va grandir dans votre cœur, la confiance va grandir aussi. Donc, un chrétien qui garde sa Bible fermée, c'est un chrétien qui va avoir de la misère avec sa foi. Amen. Si vous ne connaissez pas la parole, vous allez avoir la difficulté à connaître la volonté de Dieu. Moi, je sais c'est quoi que Dieu veut. Il y a des personnes qui viennent des fois juste donner un exemple stupide, ridicule. Des personnes qui sont venues me voir. Mais que penses-tu? J'ai rencontré une femme qui n'est pas chrétienne. Elle ne veut pas aller à l'église, mais je me demande, penses-tu que ça peut être la volonté de Dieu que je me marie avec elle quand même? Tu ne connais pas ta Bible. La Bible te donne la réponse. Tu vois, tu sais, c'est quoi la volonté de Dieu là-dessus? Déjà, c'est écrit noir et blanc. Pas besoin de poser la question. Même chose, par exemple, un chrétien qui vient et dit, hey, je suis malade, penses-tu que le Seigneur veut que je sois guéri? Tu ne connais pas ta Bible. Tu ne connais pas ta Bible. Amen. Alors, numéro 3, passer du temps avec les autres ou les autres personnes qui le connaissent déjà. Car je désire vous voir, Paul a dit, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, tout le monde dit encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Savez-vous, si vous voulez avoir une foi inébranlable, il faut connaître Dieu. Il faut connaître sa nature, il est bon et fidèle. Il faut connaître sa puissance. Rien n'est impossible à lui. Il faut connaître sa volonté. Mais pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec lui dans la prière, passer du temps avec lui dans la parole et passer du temps avec les autres qui le connaissent déjà. Savez-vous, la foi est contagieuse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un ami qui avait un ami et à force d'entendre parler de l'ami de ton ami pendant des années, tu as l'impression que tu connais déjà la personne, même si tu ne l'as jamais vue avec tes yeux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et puis peut-être un jour, la personne vient visiter Drummondville et « Hey, ça c'est mon ami dont je vous ai parlé il y a depuis X années. Ah, je suis content de te connaître, c'est comme si je te connais déjà. » Il y a cet effet-là qu'on peut avoir les uns sur les autres quand on parle de la foi. Hey, tu sais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Tu sais comment il a agi dans ma vie? Tu sais comment il a répondu à ma prière? Tu sais comment il m'a exaucé? Et si vous passez du temps avec des personnes qui ont confiance en Dieu, vous allez commencer à avoir confiance en lui aussi. Encore la raison pour laquelle il est tellement important d'être assemblé dans une église, mais encore là, pas juste n'importe quelle église, dans une église qui croit et qui a confiance en Dieu. Amen. Et même dans l'église, essayez de passer de plus de temps que possible avec des personnes qui connaissent Dieu et qui ont confiance en Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tania va venir au clavier, on va fermer là. Midi moins deux. On a 120 secondes de plus. Ça, c'est juste une introduction. Des choses que, au fur et à mesure, à travers les prochaines quelques semaines, on veut voir des choses pratiques, des choses qu'on peut faire pour augmenter notre foi, pour développer notre foi, pour faire grandir notre foi. Parce que plus nous avons confiance en Dieu, plus nous allons pouvoir faire des choses impossibles à l'homme. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Merci Père Céleste. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour la foi. Une ferme assurance. Une ferme confiance. Seigneur, nous sommes confiants parce que nous te connaissons. Et Seigneur, s'il y a des personnes ici présentes qui n'ont pas encore développé une foi ferme ou inébranlable, montre-leur, Seigneur. Les étapes que on vient de donner sont simples. Passer du temps dans la prière, dans la parole et avec les autres qui connaissent ta bonté, ta fidélité, ta puissance et ta volonté. Seigneur, aide-nous à grandir dans la foi pour être un peuple agréable à toi qui marche, Seigneur, d'une manière digne des enfants de Dieu, qui porte du fruit en toute bonne œuvre. Un peuple qui est toujours joyeux et persévérant. Merci, Père Céleste. Je suis avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, « Pasteur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. » Peut-être vous avez cru dans votre tête que Jésus est le Fils de Dieu, mais vous n'avez jamais cru dans votre cœur. Vous n'avez jamais pris une décision de donner votre vie à lui personnellement, d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Avec tous les yeux fermés, je vais juste donner une minute ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, « Pasteur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. J'ai besoin d'être né de nouveau. Je veux être sûr et certain, sans aucune doute, que j'ai une place réservée pour moi au ciel. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Peut-être tout le monde ici est déjà sauvé, né de nouveau. Il y a une personne. Gloire à Dieu, une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit, « J'ai besoin. Je ne peux pas voir Jésus, mais je crois en lui. J'ai la foi. J'ai la ferme confiance. J'ai l'assurance dans mon cœur que Dieu existe, qu'il m'aime, qu'il est bon et qu'il a envoyé Jésus pour moi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main avec cet autre monsieur en disant, « Oui, je veux donner ma vie à Jésus. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sinon, on va prier. Et toi qui as levé ta main, je veux que tu pries cette prière avec nous ce matin. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Le Seigneur va faire un miracle. Tu vas naître de nouveau. Ton cœur du péché va être remplacé par un cœur nouveau qui est propre, qui est lavé, qui est juste, comme si tu n'as jamais fait quoi que ce soit de mauvais pendant toute ta vie. Tu vas avoir un nouveau départ en Jésus. On va prier avec ce monsieur. Tout le monde prie ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ta bonté et pour ta fidélité. Je sais que tu es digne de confiance. J'ai foi en toi. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ de Nazareth, il est mon sauveur. Il est mon maître. Je crois de tout mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre les morts et que Jésus vit éternellement. Merci que maintenant, Jésus habite dans mon cœur par l'Esprit Saint. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis ton enfant. Et je vais vivre pour toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Tout le monde qui est d'accord dit Amen. Amen. La Bible dit que tous les anges des cieux seraient justes si un pécheur se répand. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir une foi inébranlable pour que quand Dieu vous demande...